Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes dans le cadre de nos rendez-vous avec l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Nous sommes en contact par Skype avec monsieur Alain Marbeuf. Bonjour Alain.
Bonjour Serge, bonjour Radio Osmose.
Alors on a un petit son Skype, hein, donc on va essayer de bien vous écouter. Vous êtes un ancien chercheur au CNRS, vous êtes également conférencier pour l'Université Rose-Croix Internationale. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler, nous présenter un petit peu un personnage dont on connaît le nom, mais c'est vrai qu'on connaît pas vraiment l'histoire, Abdelkader. Alors vous aviez sous-titré un soufi, chevalier des temps modernes. Pourtant c'est quelqu'un qui date du 19e siècle, Abdelkader.
Bon, c'est vrai que les temps modernes, c'est depuis la Renaissance jusqu'à maintenant. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un personnage du 19e siècle, puisqu'il est né en 1808, dans l'ouest de l'Algérie, ce qu'on appelle l'Oranais. Et puis, il a vécu jusqu'en 1883, où il est décédé à Damas. Alors, entre sa naissance et son décès, beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il a été soufi dans la filiation de son père, qu'il est donc musulman et mystique par le soufisme.
Alors pour les auditeurs, on peut rappeler ce que c'est qu'un soufi ?
Alors un soufi, c'est donc un mystique musulman qui s'attache à aller au-delà des textes. En l'occurrence, pour un musulman, le Coran, les commentaires du Coran, les hadiths, et en fait, un soufi va se retrouver dans un processus initiatique, c'est-à-dire c'est la recherche de la communion avec le Créateur, avec Dieu, un Dieu unique. En ce sens, le soufisme est dans la tradition de tous les mysticismes qui se sont succédés depuis l'Antiquité gréco-romaine, l'Antiquité égyptienne avec l'hermétisme, gréco-romaine donc après avec le gnosticisme, dans le judaïsme ce sera la Kabbale, et dans le christianisme on pourrait appeler ça les icasmes, c'est-à-dire la voix cardiaque avec les prières intimes, c'est des choses il n'y a pas de barrière entre ces différents mysticismes. Beaucoup se côtoyaient d'ailleurs lorsqu'ils en avaient la possibilité, ce qui fait qu'un soufi comme Sohrawardi, lui fait remonter sa connaissance du divin à Pythagore, en passant par Hermès, Platon, Zoroastre, Jésus et bien sûr Mahomet.
D'accord. Alors l'intérêt d'Abdelkader pour nous aujourd'hui, c'est que ça nous fait remonter un petit peu au début de la colonisation de l'Algérie, non ?
Oui, tout à fait. Il a été émir, chef de guerre, pour essayer à la fois de contrer l'arrivée des armées françaises en 1830, et puis aussi chasser l'Empire ottoman. En fait, son pays était divisé, partagé entre tribus. Alors, il a essayé de réunifier cela sous son commandement. On peut dire qu'il a échoué parce que l'armée française était plus puissante, qu'elle a utilisé parfois des méthodes un peu assez brutales, ce qui a été reproché d'ailleurs à son commandant en chef, le maréchal Bugeaud. Puis la vie guerrière qu'il a pu mener s'est arrêtée en décembre 1847. Avec la chute de la monarchie, le départ de Louis-Philippe, la révolution dite de 1848, un gouvernement provisoire dirigé par le poète Alphonse de Lamartine, gouvernement d'ailleurs qui s'est plus préoccupé d'ailleurs de choses importantes sur la société française au niveau social, et puis aussi la préparation de la loi de l'abolition de l'esclavage avec Victor Schœlcher.
D'accord. Alors vous, personnellement, qu'est-ce qui vous fascine chez Abdelkader ?
Ce qui
vous intéresse,
fascine,
oui, voilà.
C'est un petit peu les différentes facettes du personnage. Parce que, en fait, si on regarde ce qu'il a fait durant sa vie, il a été à la fois un guerrier, il a été un ami de la France, de ses gouvernants, que ce soit d'ailleurs à l'époque de Louis-Philippe, mais surtout avec Lamartine, puis Napoléon III. Alors, ami de gouvernants, ami d'ingénieurs comme Ferdinand de Lesseps, et il soutiendra son projet de canal de Suez auprès du vice-roi d'Égypte à l'époque. Et puis, ami de prélats, notamment son alter ego au niveau religieux pendant la guerre de colonisation par la France, et donc la fin de l'indépendance des principautés algériennes, avec le premier évêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, avec l'archevêque de Bordeaux aussi, à la même époque, Monseigneur Donnet. Et toutes ces personnes-là vont le soutenir, vont obtenir sa libération quand, par suite de pression peut-être de l'armée française, et puis le fait qu'il avait été un chef de guerre assez virulent en tant que militaire, l'armée de la France n'avait pas voulu qu'il soit libéré. Et c'est Napoléon III finalement qui, en 1852, juste avant l'instauration de l'Empire, du Second Empire, le fera libérer.
Alors ce qui est étonnant, c'est que vous parlez d'un ami de la France alors que on est en guerre, puisqu'on va le coloniser, on va l'attaquer là-bas. Et puis je crois que, si j'ai bien compris, hein, la conférence que vous faites autour d'Abdelkader, il interdit à ce qu'on maltraite les prisonniers français aussi. On a une toute autre image, c'est très impressionnant.
Tout à fait, il a mis en place, en collaboration avec l'évêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, il a mis en place échange de prisonniers, soins des prisonniers, c'est-à-dire aussi bien au niveau santé, c'est-à-dire les soigner après blessure, que les nourrir. Donc en fait, en faisant cela, il a en quelque sorte il a mis en place ce qui sera plus tard la Croix-Rouge avec Henri Dunant en 1863. Donc on peut dire qu'il y a presque 20 ans d'écart entre ce qu'il a fait et la création de la Croix-Rouge. Alors ça, c'est un premier point. Un autre point important, c'est qu'il s'est toujours refusé, une fois que la guerre a été finie, qu'il s'était rendu, qu'il a été libéré et qu'il avait promis de ne pas reprendre les armes. Il a protégé les chrétiens en Syrie, notamment lorsqu'elles ont été pourchassées par les druzes du pays. Donc en fait, on voit qu'il est resté fidèle à sa promesse de ne plus prendre les armes, sauf pour défendre les faibles, ceux qui étaient sous sa protection. Et ça lui a d'ailleurs valu la Légion d'honneur, la décoration par le pape de l'ordre de Saint-Pie-IX et une décoration aussi du tsar qui régnait à l'époque en Russie.
Alors c'est intéressant de voir avec le prisme actuel que Abdelkader, vous l'appelez quand même l'ami de la France, le protecteur des chrétiens.
Voilà, c'est ça.
On peut dire ça nous étonne aujourd'hui.
Et justement, en ayant eu cette action, il nous donne une image de tolérance. Alors je pense qu'en tant que soufi, pour lui, c'était naturel. Et lorsqu'il a été effectivement à Damas et qu'il a passé les 20 dernières années de sa vie, les 25 dernières années de sa vie, il a œuvré en mystique, c'est-à-dire que pour lui, ce qui était important, c'était de faire passer les messages de ce qu'il ressentait par rapport aux religieux, par rapport à la divinité. Voilà ce que l'on peut dire en résumant les choses Bon, bien sûr, il y a d'autres points sur lesquels on pourrait s'apesantir, notamment le type de son message au niveau mystique. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a l'impression, en lisant les textes qu'il a écrits, notamment le livre des Haltes, qu'il était vraiment dans la lignée des gnostiques, des kabbalistes et des hermétistes, c'est-à-dire la tradition qui fait la synthèse entre la cosmogonie égyptienne et puis le monde judéo-chrétien.
Il avait quand même la particularité aussi de mêler un petit peu les trois religions, l'Évangile, oui. Le Coran, la Torah.
Tout à fait, puisqu'il a dit si on m'en avait laissé la possibilité, je crois que je les aurais réunifiés. Et c'est quand même intéressant
là,
parce que
oui.
Comme on a toujours tendance à les
bon, quand on les divise, nous on les voit bien séparés, on voit des guerres entre ces religions.
Oui.
Alors qu'on voit que ce monsieur au 19e siècle était là en train de dire qu'il faudra en faire qu'une avec les trois, quoi.
Oui. Et alors en plus de ça, c'est que justement il voyait le retard qu'avaient pris les sociétés où l'islam était la religion prépondérante ou pratiquée. Il a cherché à, comme je le disais tout à l'heure, protéger les chrétiens, mais les juifs également, puisque en fait il appliquait vraiment jusque à l'extrême possibilité ce qui se passait dans les sociétés musulmanes, c'est-à-dire que les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, étaient protégés. Et cette protection, pour lui, était importante parce qu'il ne voyait pas de différence fondamentale. Lorsqu'on regarde du côté du Dieu unique, il ne voyait pas de différence fondamentale entre les trois religions dérivées d'Abraham, enfin, descendants d'Abraham au niveau mythique. Mmh. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'avait pas connu d'autres... bon, bien sûr, il savait qu'Amboise, quand il a passé ses 3 ans de... 3 ans et demi de prison, enfin emprisonné là-bas, captif, il a bien vu qu'il y avait un certain Léonard de Vinci qui avait vécu les dernières années de sa vie, puisque finalement des tombeaux de sa famille morts pendant cette période de captivité, à côté de ces tombeaux, il y avait le mausolée de Léonard de Vinci. Alors il n'a pas connu Louis-Claude de Saint-Martin, qui est quand même un des grands inspirateurs du martinisme. Il y a des points communs très amusants, parce que lorsqu'il parle des pèlerins qui tournent autour de la Kaaba, il parle de la circonférence qui représente les mondes reliés entre eux, le centre symbolisant l'ordre immuable. Et cela rappelle d'ailleurs Blaise Pascal qui disait « Dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part ». Et Louis-Claude de Saint-Martin a dit natif d'Amboise, a dit à peu près la même chose. Donc on voit une certaine continuité entre différentes personnes qui ont vécu à des époques différentes, voire dans la même ville. Et ce qui est assez amusant, c'est que de penser que au 19e siècle, au milieu du 19e, on a pu entendre les cloches sonner dans l'église paroissiale et l'appel du muezzin en haut de la tour du château d'Amboise. C'est ça qui est quand même extraordinaire.
On a quand même des leçons à prendre aujourd'hui sur ce qui se passait à l'époque, peut-être.
Tout à fait, tout à fait. Et tout à fait. Et Abdelkader était vraiment un avocat pour la modernisation des sociétés en se basant sur la science. Et il encourageait justement les sociétés musulmanes à aller dans ce sens, d'où son soutien à Ferdinand de Lesseps, d'où son soutien et son accueil très favorable au percement du canal de Suez, auquel d'ailleurs il a participé à son inauguration en compagnie de l'impératrice Eugénie.
Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de ce Abdelkader ? pas grand-chose, si on en croit ce que vous nous racontez. On s'est bien divisé entre temps, on n'a pas gardé grand-chose de sa pensée ou de sa philosophie, peut-être.
Sa philosophie, peut-être. Je pense que les philosophes et les intellectuels musulmans, il existe d'ailleurs des soufis à l'heure actuelle, comme par le passé, il en existe en France, et c'est vrai que les soufis, qu'ils soient en France, qu'ils soient dans d'autres pays européens, ont du mal à se faire entendre. C'est toujours la question de l'intolérance, du traditionnalisme que l'on retrouve dans toutes les religions, que ce soit dans le christianisme, l'église traditionnaliste catholique en est un exemple, on le retrouve dans le judaïsme avec des comportements très intolérants, on le retrouve aussi dans le bouddhisme, parce que si on regarde en dehors de l'Europe, on le retrouve dans le bouddhisme, c'est relativement général. Tout cela pour dire que finalement, il avait raison de dire que on doit s'échapper du corset religieux pour s'ouvrir vers l'autre, vers le dialogue. Et en ce sens-là, je dirais que les rosicruciens dont je suis, les martinistes également, sont tout à fait d'accord avec cette vision-là et le fait qu'il faut œuvrer toujours, même si on a l'impression qu'on avance peu, dans cette voie-là. Voilà ce qu'on pourrait dire en fait de son message en l'actualisant et en le poursuivant à notre époque.
D'accord, il y a de très belles leçons à prendre. Il reste des textes quand même d'Abdelkader, des livres peut-être qu'on peut conseiller.
Oui, alors il y a le livre des Haltes dont j'ai cité le nom tout à l'heure. Et puis surtout, il était le disciple d'Ibn Arabi, qui était un soufi andalou de la fin du 12e, début 13e siècle. Et il a fait rééditer ses œuvres dans Les Illuminations de la Mecque. Et il se sentait en fait le disciple d'Ibn Arabi. Donc il est dans la lignée du soufisme. Et dans le soufisme qui s'ouvre, Ibn Arabi était aussi quelqu'un de tolérant. N'oublions pas qu'à l'époque d'Al-Andalus, il y avait un mystique juif, Maïmonide, qui était médecin. Tous ses textes pratiquement étaient écrits en arabe et qui ensuite a poursuivi son dialogue avec les chrétiens lorsqu'il était au Caire. Donc il y a tout un tas de personnages comme ça qui, à travers les siècles, sont des ponts entre des berges de fleuves qui apparaissent infranchissables. C'est un petit peu la leçon, une autre leçon que l'on peut tirer.
D'accord. On peut trouver des livres, hein, encore, hein, j'ai vu dans la bibliographie que vous mettez à la fin de votre conférence, la lettre aux Français, chez Libretto.
Oui.
Et
oui,
le livre des Haltes, chez Dervy.
C'est ça.
Hein,
c'est cela.
Pour ceux qui veulent.
Il y a aussi un livre qui peut être intéressant si on veut avoir une compréhension d'Abdelkader peut-être un peu plus approfondie que les minutes que nous avons passées ensemble. C'est le livre de Bruno Etienne qui est intitulé Abdelkader et qui a paru en 2012 chez Fayard. Et ce livre-là, d'ailleurs, il y a quelque chose de très amusant. Il fait référence à la mosquée El-Aqsa, dont on parle des fois dans les médias parce que il y a des conflits entre les musulmans qui veulent aller dans la mosquée, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, et puis l'État israélien. Donc cette mosquée, son dôme, lorsqu'on regarde la manière dont il est construit, on va trouver une symétrie carrée, une symétrie octogonale. Et la symétrie carrée va représenter assez curieusement la croix des chevaliers templiers. Donc c'est très 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 amusant de retrouver ces coïncidences. Et en même temps, parler de 4 et de 8, ça rejoint le martinisme, ça rejoint Louis-Claude de Saint-Martin, dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a toujours des petits points comme ça, que ce soit dans l'architecture ou des fois dans les musiques, qui permettent de faire des ponts.
D'accord. On peut trouver peut-être des informations sur le site, non, de la Rose-Croix.
Oui, sur le site de la Rose-Croix. Alors peut-être pas sur Abdelkader, mais de manière générale sur le soufisme. Et puis sur le martinisme, il y a également le site de l'ordre martiniste traditionnel, OMT, sur lequel on trouve bien sûr des informations, il y a des vidéos, il y a des critiques de livres aussi qui sont parues. Moi-même, j'ai écrit un livre qui correspond à une compréhension un petit peu de ce qu'annonçait, de ce que pensait Saint-Martin, et puis d'autres disciples comme lui, de Louis-Claude Martinez de Pasquali, qui était un illuministe du XVIIIe siècle. Voilà.
D'accord. Écoutez,
ce livre, c'est les leçons de Lyon.
Pardon, j'ai pas très bien entendu.
Le livre est sur les Martinez de Pasquali et les leçons de Lyon.
Ouais. Les leçons de Lyon. Ouais. Alain Marbeuf, merci beaucoup pour tous ces éclairages, on va dire, autour de Abdelkader. J'invite nos auditeurs quand même à approfondir, parce qu'on peut trouver quand même pas mal d'informations sur le personnage, sur la période aussi, parce que c'est quand même une période très importante qui peut nous éclairer sur ce qu'on vit aujourd'hui, sur notre façon d'appréhender les choses un peu aujourd'hui aussi. Et puis j'invite aussi nos auditeurs à aller voir le site rose-croix.org, où il y a pas mal d'enseignements quand on s'inscrit.
Oui,
c'est ça. Je vous remercie. Passez une bonne journée.
Merci à vous de m'avoir donné la parole et de m'avoir permis de parler d'Abdelkader.
On se retrouve à très bientôt, au revoir. Et nous, on se retrouvera très prochainement avec d'autres rendez-vous autour de la morgue, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Dans quelques semaines, nous parlerons de méditation.